franceinter.fr.
Et deux sujets donc à la une de la science aujourd'hui, le climat et l'éclipse de lune. Hervé Kempf et Philippe Hénarejos, bonjour.
Bonjour.
Le climat tout d'abord avec vous Hervé Kempf, vous êtes journaliste pour le site Reporter, le quotidien de l'écologie. On fait d'abord un petit tour de l'actualité scientifique. Qu'est-ce qu'il faut retenir Hervé de ces dernières heures avant la COP21, fin novembre?
Un article très intéressant qui paraît tout à l'heure, cet après-midi, dans Nature Climate Change. Mm-hmm. Un article de recherche en sciences sociales, en fait, et qui s'intéresse à comment convaincre les gens que le changement climatique, c'est important et il faut agir. Et plutôt que de dire le changement climatique, c'est grave, c'est la catastrophe, insister sur les bénéfices et qu'on peut retirer d'une lutte de prévention du changement climatique.
Et bien justement, si nous arrêtions de parler de la catastrophe climatique, c'est à la une aujourd'hui.
Et si l'humanité devait disparaître avant le prochain siècle ? Quelle pourrait en être la cause? Parmi les risques actuels, les chercheurs évoquent ainsi un changement climatique extrême, une catastrophe écologique majeure, une pandémie mondiale.
Voilà une étude internationale donc parue aujourd'hui même. Vous le disiez, Nature Climate Change suggère, questionnaire à l'appui, que la meilleure manière d'induire une prise de conscience sociale du changement climatique, ce serait de changer notre manière d'aborder précisément le sujet, Hervé. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Christophe Demarc. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes maître de conférence en psychologie sociale à l'université d'Aix-Marseille et co-auteur justement de ce papier. Alors Hervé, d'abord des précisions, cette étude a été menée dans 24 pays et le résultat est presque toujours le même. Pour convaincre les gens d'agir pour le climat, eh bien mieux vaut ne pas leur parler de la fin du monde, mais plutôt du monde de demain.
Voilà, et des bénéfices que l'on tirerait d'une vraie politique de prévention du changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quels sont, Monsieur Demarc va mieux nous expliquer la méthode qu'il a suivie, mais ce qu'il ressort clairement, c'est que si l'on insiste notamment sur les possibilités de développement économique liées à l'économie verte, les économies d'énergie, les énergies renouvelables, d'autres modes de transport, etc., ça a un effet très favorable pour inciter à l'action, non seulement auprès des gens qui sont déjà convaincus par le changement climatique, et ils sont nombreux, mais aussi par ceux qui ne le sont pas, qui sont climato-sceptiques ou indifférents. Parler du développement économique possible est important. Deuxième enseignement très important, c'est que si l'on insiste sur le côté, alors l'anglais, l'article est en anglais évidemment, parle de bénévolence, on pourrait traduire ça par solidarité, par goût de la communauté, par retisser des liens sociaux dans la société, eh bien si les chercheurs, le questionnaire insistent sur cet aspect, c'est aussi un autre bénéfice très utile qui est mise en avant par les gens. Oui, si ça aide à ce que la communauté, la société aille mieux, nous sommes d'accord pour aller dans cette direction.
Axel.
Oui, on va demander à Christophe Demarc comment vous avez mené cette étude, comment êtes-vous arrivé à ces conclusions?
Oui, donc en fait, on demandait aux participants de réfléchir aux conséquences que pourraient avoir les actions mises en place pour limiter le changement climatique. Alors là, dans notre échantillon, c'était sur la société française, et de se projeter en 2050. Alors on leur demandait de penser à ce que seraient les Français, quelles seraient leurs valeurs, comment fonctionnerait la société française si nous mettions en place des actions contre le changement climatique. Et ce qu'on observe, c'est que plus je pense que les co-bénéfices pour la société française sont importants en termes de développement économique et scientifique, comme vous l'avez dit, mais aussi en termes, voilà, vous avez des bénévolences, on pourrait dire de climat social aussi positif, c'est-à-dire le fait d'être attentif aux autres, la question de la justice sociale, de l'égalité. Eh bien oui, là, on observe des corrélations entre cette perception de co-bénéfices et des intentions comportementales, c'est-à-dire le fait de se déclarer être prêt à agir contre le changement climatique dès aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est intéressant, et M. Kempf l'a souligné, c'est qu'on retrouve ce lien même chez les individus sceptiques.
Est-ce que Christophe Demarc, du coup, ça nous incite à revoir entièrement notre façon de communiquer autour du climat?
Alors, pour un petit peu peut-être nuancer ce qui a été dit, il est clair que la communication sur les aspects climatiques, elle est importante et on observe que une grande majorité de notre échantillon, plus de 6000 personnes, est quand même convaincue de la réalité du changement climatique. Mmh. En revanche, il est clair qu'on fait le constat aussi que cette stratégie, elle arrive un petit peu en bout de course et qu'il est nécessaire de trouver d'autres moyens de communiquer. Et en effet, la question des co-bénéfices paraît une piste intéressante.
Hervé Kempf, on se rend quand même bien compte qu'il reste encore beaucoup de climato-sceptiques dans les pays anglo-saxons avec cette étude.
Les pays anglo-saxons et aussi dans les pays en développement, puisque cette étude a porté sur 24 pays, un certain nombre de pays du Sud. Ce n'est pas que les gens interrogés, qui sont souvent d'ailleurs des étudiants, et seraient climato-sceptiques, mais ils peuvent être indifférents à la question du climat.
Et eux sont quand même touchés par cet aspect du monde à venir.
Oui, tout à fait. Comme l'a dit le chercheur, monsieur Demarc, ces deux aspects fonctionnent, si j'ose dire, sont opératoires sur les deux types de personnes interrogées.
Voilà donc pour cette étude qui est parue aujourd'hui. Et on va se retrouver régulièrement le lundi, Hervé Kempf, pour préparer avec vous la conférence sur le climat. On se retrouvera donc lundi prochain. Merci à Christophe Demarc. Et puis on peut aller sur reporter.net en attendant. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis bien sûr, dans l'actualité, il y avait aussi cette nuit l'éclipse totale de lune.
Franchement, je suis soufflée de voir une telle beauté.
C'est la première éclipse de lune qu'on voit. Donc du coup, c'est super joli. On aime bien l'astronomie, mais on est vraiment débutants. Donc en fait, c'est la première vraie observation qu'on fait.
C'est une belle occasion pour commencer.
C'est assez fou. J'ai entendu ça à la radio et à la télévision et du coup j'avais envie de venir voir un peu plus près le ciel. C'est super en tout cas.
Voilà Philippe Pénarejo, il suffit de voir nos mines pour comprendre qu'on a aussi assisté à cette éclipse totale de lune cette nuit. Qui autour de cette table, Alain Badiou, Jean Dombre et Frédéric Morlot, est-ce que vous avez eu le courage de vous lever à 4h du matin, Alain Badiou?
Je ne l'ai pas eu, je dois dire.
Bon, vous avez vu les photos peut-être en tout cas qui sont parues un petit peu partout. Jean Dombre, je crois que vous avez vu...
Oui, j'ai voulu voir.
Vous êtes levé
avec plaisir.
Voilà, et Frédéric Morlot?
Je plaide coupable, j'ai pensé à mes élèves le lendemain.
Bon, c'est ça. En tout cas, il y a beaucoup de photos qui circulent, Philippe, et les conditions étaient exceptionnelles quand même pour l'observer cette éclipse totale.
Parce que pour voir une éclipse, il faut qu'il n'y ait pas de nuages, qu'il y ait une bonne météo. Mmh. C'était le cas sur la majeure partie du pays. Je pense qu'il y a quelques endroits où il y a quelques brumes, hélas. Mais en gros, on avait quand même un grand beau temps.
Oui, c'est vrai. Axel. Hein.
Philippe, expliquez-nous pourquoi, quand l'éclipse est apparue, la Lune paraissait plus petite qu'en début de soirée.
Oui, ça, c'est la question que tout le monde s'est posée.
Alors, déjà, ça n'a rien à voir avec l'éclipse.
Oui.
C'est parce que, au moment de l'éclipse, elle était assez haute dans le ciel. Donc, assez loin de tout référentiel. Arbres, immeubles, collines qui est près de l'horizon. Et donc, vous pouvez vérifier cela par toutes les autres phases de la Lune ou toutes les autres pleines Lunes. Quand la Lune est près de l'horizon, le cerveau associe la Lune qui a quand même un fort diamètre apparent, elle est quand même assez grosse. C'est pareil pour le Soleil, d'ailleurs, quand c'est près de l'horizon, on le compare à ce qui est visible dans le même champ visuel. Quand c'est loin de tout référentiel, on a l'impression que c'est beaucoup plus petit. C'est une impression comme ça.
C'est un effet d'optique parce qu'on se trompe complètement. En fait,
on se trompe complètement.
Elle était plus grosse dans le ciel.
En réalité, alors l'effet est pas visible, mais en réalité, du fait de la rotondité de la Terre, au moment où elle est au zénith, ou proche du zénith, proche du méridien plus exactement, elle est normalement plus près de nous que quand elle est à l'horizon est ou ouest.
Ouais.
Mais bon, cet effet-là n'est pas vraiment mesurable. Mais en réalité, elle est à peu près 6000 km plus près.
Ouais. Est-ce que ces éclipses nous apprennent aussi des choses intéressantes en matière scientifique, Philippe?
Alors, en matière scientifique, il y a bien longtemps que ces éclipses de Lune ne servent plus beaucoup. Il y a quand même une expérience qui est en cours depuis les années 60. Il y a deux observatoires dans le monde qui ont deux télescopes, un aux États-Unis et un en France d'ailleurs, dans les Alpes, qui envoient un faisceau laser sur la Lune, alors pas n'importe où sur la Lune, mais à certains endroits où les astronautes des missions Apollo et où deux robots soviétiques, les fameux Lunokhod, ont posé des réflecteurs laser, et on envoie des tirs laser pour mesurer en permanence la distance au centimètre près entre la Terre et la Lune. Alors ça permet de calculer mieux l'orbite de la Lune sur des longues... Alors, pourquoi c'est mieux pendant une éclipse?
Ben oui, parce qu'elle est plus près.
Hier,
elle était à son périgée, en tout cas.
Hier, c'était
exceptionnel.
C'était intéressant, voilà.
Absolument.
Mais pendant une éclipse, ce qu'il y a, c'est qu'au moment de la phase de la pleine Lune est très brillante. Donc, si vous envoyez un laser vers la Lune, les photons qui reviennent, ils sont quand même noyés dans une grosse soupe de photons très importante qui reviennent de la Lune. Or, pendant l'éclipse, la Lune est beaucoup moins éclairée par la Terre, il y a très peu de photons et on voit mieux le faisceau laser, donc c'est plus intéressant de tirer pendant les éclipses de Lune. Voilà.
Il y a des photons et il y a des photos aussi de l'éclipse qui sont très belles.
Oui, les photons qui viennent de la Lune ont été captés par les terriens à travers leurs appareils photo.
Alors il y en a qui ont réussi leurs photos, ce qui n'a pas été notre cas par exemple avec nos smartphones, parce qu'on a fait vraiment des photos assez pourries, il faut bien le dire.
Oui, je confirme. Mais ce n'est pas vraiment de votre faute parce que les capteurs qui sont sur les smartphones sont très petits, donc la Lune était quand même c'était une lumière assez faible au moment de la totalité.
C'est ça.
Donc ça compensait par une sensibilité accrue qui fait ce qu'on appelle un grain énorme en photo et qui fait que ça fait un côté un peu impressionniste.
C'est ça.
Mais pas impressionnant.
Bon, c'était sympa, vous avez quand même retweeté la mienne sur Twitter. Donc
quand même.
On peut aller sur Ciel et Espace, Philippe, pour voir de vraies belles photos.
Il y a quand même des astronomes amateurs et des astrophotographes qui maîtrisent parfaitement toutes ces techniques et qui maîtrisent aussi les avant-plans. Ouais. Il y a des très belles photos avec la Tour Eiffel, avec tout un tas de monuments. On en a mis quelques-unes, on en mettra d'autres à mesure qu'elles arriveront dans la journée.
Voilà,
et elles sont déjà très belles.
Et elles se passent sur Internet. Et puis pour terminer, une annonce que la NASA nous promet très importante au sujet de Mars cet après-midi. C'est quoi le scoop là? On a découvert des martiens,
si
de
je le
liquide.
Savais, croyez bien que je vous le dirais. Ouais. Simplement, je méfie toujours un peu des annonces très importantes de la NASA sur Mars. On verra ce soir ce qu'il en est. C'est peut-être concernant l'eau, l'air, la vie. Oui, c'est ça, Mars.
Si c'est important, on vous retrouve demain, dans tous les cas.
Ah bah oui, je reviendrai avec plaisir.
C'est une deuxième une. Merci beaucoup, Philippe Pénarejo. C'est donc Ciel et Espace pour voir les photos de l'éclipse totale de Lune.